Bonjour à tous. On a eu un petit problème cette semaine avec le fichier audio du podcast. Mon micro s'est enregistré, mais pas les deux autres micros, celui d'Alexis, celui de JF. Donc, on avait juste ma piste audio à moi, de bonne qualité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on diffuse l'audio de notre plateforme Spreecast. Malheureusement, la qualité est de beaucoup diminuée. On a décidé quand même de la diffuser, vu qu'il y a l'entrevue, entre autres, dans le podcast. Qui est de bonne qualité quand même, là. On a pu sauver ça. Et on va se récupérer, puis inquiétez-vous pas, on va diffuser d'une bonne qualité le prochain podcast. Donc, on est désolé pour ça.
Bonjour, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac, bonsoir. J'ai hésité dans l'intro, j'ai été un petit peu déstabilisé. Je ne savais plus trop où est-ce que j'étais parce qu'on n'a pas recommencé une diffusion, on a plutôt continué celle du podcast Mac Québec. On a décidé d'essayer ça, tu sais, on essaye des trucs pendant l'été. Il y a des gens qui se sont rajoutés à nous, d'autres qui sont partis, on les salue, ceux qui sont dans la chatroom. Et je salue aussi mes co-animateurs qui sont avec moi cette semaine. Comme toujours, Jean-François Roy. Bonjour Jean-François, ça va bien?
Oui, ça va très bien, toi?
Oui, pas mal. Oui. Et Vincent aussi qui est avec nous, toujours là.
Toujours là. Je pensais que tu allais dire quelque chose, mais non, juste me présenter.
Ben les mots venaient pas, ouais, en fait. Pour l'anecdote, en fait, ça fait une semaine que je vais au ZooFest, puis je trouve qu'il y a plein de... Le ZooFest, c'est comme un sous-festival du festival Juste pour rire. Ça coûte 40$ acheter une passe, et vous pouvez aller voir en fait à peu près tous les shows qui sont diffusés pendant le ZooFest, sauf Sexe illégal. Je sais pas pourquoi, mais il faut acheter les billets pour eux. La passe ne permet pas d'y accéder. Et en fait, je suis allé voir de très, très bons shows. Entre autres, je voulais souligner le show des papas avec Jonathan Robert, Jérémy Larouche et Martin Philippe. Adib, je ne peux pas nommer son nom de famille, c'est trop compliqué. Mais cherchez Adib, c'est vraiment excellent comme show. Et Olivier Martineau aussi, qui est très, très drôle. Si vous aimez rire, en fait, c'est d'excellent. En fait, c'est mon coup d'os de la semaine. Et puis, tout au long de la semaine, je continue à aller voir des shows. Si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs, j'en parle un petit peu.
Alexis, tu veux-tu nous parler de qu'est-ce qui s'en vient vendredi prochain, s'il te plaît?
Oui. Ben effectivement, en fait, vous le savez, en fait, un de mes podcasts préférés et dont je m'inspire, en fait, quand même pas mal pour... mes propres animations, c'est le podcast des Mystérieux Étonnants, animé par Benoît Mercier avec François Ouellette et Yann, son famille m'échappe, et Simon...
Son nom de famille m'échappe.
Finalement, c'est juste Benoît qui est...
Simon Chénier, merci. Benoît est là dans le chat, il rattrape le coup. Donc, c'est leur campagne de financement annuelle. Ils organisent en fait un Geek Party, c'est une super initiative. Et ils organisent ça au Brew Pub, qui est au coin de la rue des Carrières, au sud de Rosemont. Oui, c'est ça, au sud de Rosemont, et de Lormier. Donc, c'est là en fait qu'ils font les douteux. À chaque semaine, et au 5860 rue de Lormier. Merci Benoît. Et donc, ils font leur geek party là, et en même temps, c'est un rendez-vous non officiel, ou plutôt officieux, des podcasters du Québec. Donc, Benoît a invité pas mal tout le monde, et il devrait avoir une belle brochette des podcasters que vous écoutez probablement, qui vont être là. Donc, si vous vous pointez, en fait, on va pouvoir boire une bière ensemble et je vais vous laisser la payer. Voilà. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres annonces? On n'a pas de concours, on n'a pas
de concours. Non, les concours vont revenir cet automne. On est en train de vérifier sur certains produits. Okay.
En fait, on a remarqué que vous étiez là quand même si on n'en donnait pas. Fait que bon.
Moi, c'est l'espace rétro gaming que j'ai hâte.
Ah oui, 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 il va y avoir un espace rétro gaming avec des vieilles consoles. Il va y avoir du vieux stock. Je pense qu'il y a du monde passionné et impliqué là-dedans. Qui vont nous amener des trucs. J'étais allé à un événement, c'était pas tout à fait ça, mais un peu semblable. Je pense qu'il y avait une Virtual Boy à essayer, là, qui est quand même assez... il y en a tellement pas vendu, c'est encore étonnant qu'il y en a qui sont fonctionnels aujourd'hui.
On pourrait faire une parenthèse sur le sondage sur Macquébec. On en parlait de temps en temps, et je pense qu'on a arrêté d'en parler, mais on pourrait finalement cacher le temps qu'on n'a pas à mettre pour le sondage. Le sondage cette semaine, c'est votre fournisseur d'accès Internet. Donc, on veut savoir avec qui vous faites affaire. On a quatre choix, là. Vidéotron, Bell, TELUS ou autre. Puis, probablement qu'il va y avoir autre qui va s'inspirer. Surtout qu'il y a du monde qui
va comme clencher exactement. Tout le monde.
Vidéotron est en premier, par contre, en ce moment. Puis, la semaine passée, on demandait avec qui vous faisiez affaire pour réparer vos appareils défectueux. Soit le Genius Bar, soit le réparateur agréé, où vous jettiez votre Mac et votre iPhone aux ordures pour en acheter un autre. Puis,
je te gage que Dean a répondu.
Oui, probablement. Non, il n'y avait pas spammé pour dire autre pour Android. Mais les trois questions, en fait, je confie tout au Genius Bar à 59%, donc il y a 50 personnes qui ont voté. Je préfère les services d'un réparateur agréé à 29% pour 25 personnes qui ont voté. Et je jette mon Mac et mon iPhone aux ordures et j'en achète de nouveau à 12% pour 10 votes. Donc, quand même, il y a beaucoup de personnes qui jettent leur matériel.
Ben,
on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent.
Oui, ben à l'intérieur de la garantie, c'est toujours suggéré d'aller... en fait, les deux premières réponses sont bonnes, mais le service, en fait, est toujours intéressant du côté du Apple Store. C'est intéressant. Évidemment, il y a certaines régions qui ne sont pas desservies par les Apple Store, donc ils doivent aller chez les réparateurs agréés. Et puis, c'est un petit peu plate pour un réparateur agréé de voir arriver un Apple Store. Je me souviens quand ils sont arrivés ici au Québec, à Montréal, en premier, sur Sainte-Catherine. De notre côté, Apple, nous autres, on est à quoi, 700 adresses de là. On était à 700 adresses de là. Et... Il nous disait non, ça n'affectera pas vos ventes. Vous allez voir les endroits où on s'est implanté, c'était correct. Ça a augmenté le nombre d'achats, tout ça. Puis bon, ça l'est quand même pris dans les dents. Donc,
c'est sûr.
C'est voilà. Donc, puis c'est plate, c'est ça que je disais pour les indépendants parce qu'eux autres, ils ont supporté Apple peut-être depuis très, très longtemps, depuis même, tu sais. Les mauvaises époques, là, mettons 1994 à 97, là, c'était top
vendu. Oui, exactement. Que,
voilà. On aimerait remercier Pascal Forget qui a parlé dans sa chronique, je pense, d'aujourd'hui sur Technostérone de les Mac. Donc, quoi?
C'était hier.
Donc, la chronique est sortie... Il est sorti hier, donc on le remercie. Il a dit de nous qu'on était une gang sympathique et je le crois, surtout pour les co-animateurs. Moi, je suis bourré.
Ouais, non, c'est vrai. Jeff et moi, on en parlait justement avant le show. Là.
Ouais, on te connaît.
Jamais préparé. Je cherche toujours ses mots, puis compte sur Benoît pour des noms de famille du monde.
Puis des adresses.
C'est carré.
Et des mèmes.
Ah oui, en parlant de ça, je ne sais pas s'il va arriver.
Ben, je ne sais pas s'il va le faire pour ce soir. C'est ce qu'on disait, Pascal est sympathique. En fait, je tweetais qu'il est sympathique, surtout quand il est sous. Et il est sympathique à 80% du temps, ce Pascal Forget. C'est une blague.
Oui, puis le podcast de Macquébec ainsi que Macquébec ne sont pas responsables des propos que Alexis Cornelier tient dans le podcast de Macquébec.
Je le connais quand même, là. Je fais des farces.
Tu connais-tu ses avocats de Québécois, toi?
Il travaille pour la presse, fait que c'est pas Québécois.
Journal de Montréal, puis...
C'était dans le Journal de Montréal, hier.
C'était le Journal de Montréal? Ah oui? Ah, il est rendu là. Bon. On peut quand même faire des blagues dessus.
OK.
Voilà. On a-tu des questions cette semaine?
On a-tu des questions en direct?
Je pense qu'il y a une question qui traîne pour Philippe Yvan. Et voilà. Donc, Philippe Yvan, je pense que quelqu'un de nouveau au podcast?
Oui.
Oui. qui nous demande, est-ce qu'on peut lui conseiller un bon disque dur externe pour des sauvegardes? Il y a un iMac 27 pouces. Est-ce que vous avez vos idées?
Moi, personnellement, moi, je cherche les ventes, puis je cherche pas des disques durs puissants pour mes disques durs externes, tant qu'il y a une bonne garantie sur le disque dur. Puis en fait, ce que personnellement, je suis geek, donc j'ai un disque dur d'un teraoctet, mais j'ai deux autres backups. Un que je garde une fois par mois dans un disque dur, dans un endroit protégé, un coffre. Et une fois par semaine, je le laisse chez quelqu'un d'autre aussi, un autre. Donc, je suis un peu freak, mais ça m'a protégé très souvent. Puis, donc, c'est ça. Celui que j'ai, c'est vraiment pas cher. Puis, il y a des bons deals, des fois. Bureau en gros, par exemple, une fois par semaine, des fois le samedi, il y a des promotions. C'est 70$ pour un disque dur de 2 ou 3 téraoctets. Donc, là, je vise Bureau en gros, mais c'est parce que par expérience, j'en ai déjà vu des rabais là. Mais il y en a partout. Donc, si vous prenez un circulaire de temps en temps, il va y avoir des bons rabais. Là.
Moi, je vous suggère un disque dur. Oui, exactement. Le MyBook Western Digital, c'est ça que j'ai aussi. Lui, je m'en sers pour mon backup que je me sers pour quand je le mets une fois par mois, je le mets dans le coffre. Sinon, je me suis acheté un enclosure, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais un boîtier, j'ai acheté ça en FireWire 800, parce qu'on s'entend qu'un petit peu plus vite que le USB 2. Puis j'ai mis un tera dedans, en partition, là, que je me sers aussi comme backup, et j'ai mon time capsule que j'utilise à bon escient tous les jours, merci Apple avec Time Machine. Sinon, toi, Ding, t'es full cash, fait que toi, tu peux te payer le Thunderbolt, la scie à 450$, tu sais. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que, sinon, il y a ça, la scie Thunderbolt à 450$. Ben lui, il peut pas, je pense pas, en 2011, il y a le Thunderbolt dedans. Ouais. Fait que...
Pour ma part, si j'avais des conseils à donner, en fait, tu as parlé d'un Western Digital. Leurs disques sont très bons. J'ai jamais eu vraiment d'expérience avec les boîtiers, donc je ne sais pas si à long terme c'est fiable ou pas. Ce que j'aime moins peut-être de leur disque externe, c'est que le boîtier est en plastique.
Ouais.
Dans le chat, on a parlé de la compagnie Lassie qui produit des disques durs avec un bon boîtier en métal. Et depuis quelques années, ils font un modèle qui est ripé, en fait. Donc, ce sont des petites ailettes. Et en fait, cette façon de le construire là permet de dégager la chaleur. Donc, si on travaille sur le disque dur longtemps, c'est des disques durs habituellement qui sont faits pour faire du montage vidéo, bien, le disque dur ne brûlera pas. Si vous achetez un boîtier en plastique et que c'est que pour faire du backup, ça serait correct, mais un boîtier en plastique qu'on ferait rouler en permanence, je ne sais pas, par exemple, qu'on décide que notre dossier de téléchargement de version d'Ubuntu et sur le disque dur externe, s'il n'est pas capable de se débarrasser de sa chaleur, il va finir par buster. Sinon, effectivement, dans le chat, M. Ducharme, qui a toujours des bonnes propositions, les disques de G-Technology qui sont effectivement très, très bien fabriqués. J'aime aussi beaucoup le Rugged de Lassie, qui est un très, très beau modèle avec beaucoup de connectivité, du FireWire 800, 400, USB 2 et alimenté par le port. Il y a une gaine de caoutchouc autour aussi qui permet de bien le protéger pour le transport. Et sinon, il y a la gamme, le nom m'échappe, il y a une gamme de Seagate, de disques durs. Les GoFlex, voilà, qui permettent de changer l'interface. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet de faire un upgrade de l'interface pour pas trop cher. Si on a fait la gaffe de s'acheter un USB 2, on peut aller s'acheter le cossin USB 3 ou même maintenant, ils en font un Thunderbolt. Ouais. Donc, ça peut être très intéressant. Récemment, j'ai vu un produit vraiment fabuleux. C'est qui? C'est la gang qui font du RAID. C'est un Drobo. Donc, le Drobo Mobile, qui est un enclosure à 4 disques durs mobiles, donc des petits disques durs.
Et 2,5 pouces.
En Thunderbolt. Et ça fait un RAID, c'est capable de faire un RAID 5, tout ça. C'est quand même vraiment intéressant. Et la technologie de Drobo, ce qui est intéressant dedans, c'est que tu peux retirer ton disque dur. Oui, probablement, le prix n'est pas encore sorti, mais tu peux retirer, mettons, à date, là, tu mets 4 disques durs de 1 Tera dedans parce que c'est le maximum possible en portable. Puis éventuellement, tu mets la main sur un disque dur de 1,5 ou de 2 Tera dans les prochaines années. Bien, tu peux retirer un des disques durs, mettre le 2, et puis lui, il va recalculer puis il va refaire ce qu'il a besoin de faire à chaud pour intégrer cet espace supplémentaire-là. Donc, c'est quand même pas mal intéressant. On me dit aussi que les G-RAID, les disques de G-Technology sont maintenant disponibles en Thunderbolt. Donc, ça devrait bien rouler. Pour un ordinateur de table comme un iMac, par contre, tu n'es pas obligé d'aller avec des disques mobiles. Tu peux très bien aller, comme Jeff le disait, avec le disque Western Digital. Ça va quand même bien faire la job dans un cas de sauvegarde Time Machine ou cédulé à l'aide de, par exemple, Carbon Copy Cloner ou Super Duper.
Qui ne fonctionne pas encore avec Mountain Lion en passant.
De quoi?
Carbon Copy.
Non. Moi je l'ai utilisé. J'ai utilisé pas plus tard qu'hier et avant-hier, puis ça fonctionnait très bien.
Ah ouais?
Non. Pas sur Mountain, c'est Lion, c'est vrai, t'as raison. Excellent. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on ne sera pas capable de passer nos questions dans le document.
Ça va être pour Vincent.
Est-ce qu'on a vu un adaptateur Thunderbolt à USB 3?
Moi, ça me dit rien.
Je ne connais pas, personnellement. Puis j'ai fait rapidement une recherche, puis il n'y a personne qui s'en vante. Quoique, attends un petit peu.
Thunderbolt à USB 3. Chez Belkin Technologies, mais ça va vous coûter autour de 300$ et c'est une espèce de dock qui permet d'avoir un paquet de différentes connectiques. J'essaie de voir rapidement. Là, il me semble que je les ai vus. Conserve Cable. Non, c'est pas là. Thunderbolt, voilà. Et Express Dock. Oui, c'est ça. C'est un truc assez gros qu'ils appellent le Thunderbolt Express Dock. C'est quand même bon, ça donne des ports réseau USB 3, eSATA, FireWire, un headphone et une entrée microphone et trois ports USB 3. Mais je pense que le prix de détail de ça, c'est comme j'ai dit, c'est autour de 299$.
Tu branches les affaires, puis ensuite tu as un fil Thunderbolt. Parce que sa question, c'est Thunderbolt à USB. Ça ne fait pas le contraire.
Ben, Thunderbolt, c'est le bout que tu branches dans ton ordinateur en Thunderbolt, puis tu as un port USB. C'est ça la question.
La question, c'est avez-vous un adaptateur Thunderbolt à USB 3? Si tu as un produit Thunderbolt, peux-tu le brancher sur une prise USB 3? Mais si ce produit-là, ça fait-tu ça?
Non, c'est le contraire. C'est ça, la question serait USB 3 à Thunderbolt. Non, c'est ça. Il veut brancher un disque USB 3 sur son port Thunderbolt.
Est-ce que ça existe? Donc, l'autre côté, c'est ça, je veux dire.
Mais non, ça ne peut pas exister. C'est un truc USB 3 à 5 gigabits de transport pour te donner une prise qui... La norme USB 3...
C'est ça, je veux dire, là. Mais est-ce que ça existe?
Mais la norme USB 3, c'est une norme de connexion, tandis que dans le Thunderbolt, c'est du eSATA avec du PCI Express. Là. Ça ne peut pas être compatible. Ça peut être compatible de l'autre bord, mais ça ne peut pas être compatible du bord USB 3 avec un port Thunderbolt.
C'est bon, Alexis, on se calme. Ça va, ouais.
Non, mais... Je t'ai pas l'air
de... Je t'ai entendu faire... Maudit moron. Ben, je me traite de moron.
Je faisais ça pour ce que Dean vient de dire. Voilà.
Toujours à Dean.
Donc, ça répond à ça. Savez-vous si Bell accepte de désimloquer un iPhone 4 pour le transférer chez Rogers? Question d'un de mes clients aujourd'hui.
Non, c'est TELUS.
En fait, toutes les compagnies proposent maintenant de désimlocker. Le problème, c'est... Oui. Fido le fait, donc Rogers le fait.
Pas TELUS, pas Bell.
Pas Bell, t'es sûr?
Non, oui, je l'ai vu sur iPhone in Canada un moment donné.
OK, bien, faudrait téléphoner là-bas, mais je sais que cette semaine, j'ai des clients, moi, qui me l'ont demandé pour Rogers, pour Fido, par contre, pardon. Et l'affaire, c'est qu'il faut téléphoner là-bas. Et eux, ils l'ont fait. Ils ont passé 45 minutes avec quelqu'un à parler et finalement, ils leur ont dit, il y a un département qui va vous appeler. La passe, c'est que le département qui est capable de faire le désimlocage, en tout cas chez Fido, c'est à Toronto et c'est en anglais. Donc, si on téléphone, dites que vous êtes prête à parler en anglais pour faire la procédure et vous allez parler directement à quelqu'un chez Fido. Mais si vous parlez en français, ben c'est quelqu'un qui, en français, prend votre message, l'envoie par email à quelqu'un à Toronto qui, lui, quand il aura le temps, parce qu'il n'est pas au téléphone, va être capable de faire le désimlocage ou de vous rappeler pour le faire. Donc, ça peut être très long. Mais, OK. Donc, on nous dit que Bell le fait désimloque les téléphones, mais ils ne le font pas pour l'iPhone. C'est bizarre.
C'est ça. Je l'ai mis l'article, là. Que j'avais vu, là, c'est juste TELUS qui le fait.
OK. Mais Fido le fait aussi, là, c'est une procédure.
Oui, ça c'est okay. Ça.
Mais Fido, en tout cas, j'ai pas été capable d'avoir une réponse claire. La première personne à qui j'ai parlé m'a dit, on le fait, mais il faut que tu aies passé la première période de contrat avec le téléphone. Et même si tu résiles ton contrat, même si tu le coupes et que tu payes pour arrêter ton contrat après 2 ans ou 1 an et demi, ben il faut quand même que tu attendes une période de 3 ans. On s'entend-tu qu'un iPhone, au bout de 3 ans, tu le prends, tu le jettes dans les poubelles? C'est un iPhone 3 là, aujourd'hui, là. 3 ans plus tard. Là, fait que...
Ou tu le vends sur les Mac.com?
Oui, non, mais je veux dire, iPhone 3, là, tu sais, on... Fait que c'est... Oui, effectivement, en fait, l'appareil est tellement vieillot que... Eux autres, ça leur dérange pas parce qu'ils savent que tu es mieux de t'acheter un nouveau téléphone que de continuer avec un appareil comme ça. Mais il y a des nouvelles cette semaine qui sont sorties. Il y a des recours collectifs en ce moment, beaucoup. Il y en a un qui vient d'être accepté contre Bell. Il y en a un qui est en cours contre Rogers. Donc, peut-être que ça va faire bouger. Les choses. J'ai pas dit résilie, j'ai dit résil, comme bas résil. Je suis peut-être trompé, désolé.
Le mème de la semaine il est sorti.
Oh, OK. On donnera l'adresse. Est-ce qu'on l'a? Tu la mettras dans les stand-by.
Ouais.
On a une autre question de M. Ducharme encore. Vincent, peut-on voir la plateforme HTML5? Au pire, après le show.
Parce qu'il veut en plus.
Le projet ultra secret,
en plus,
ça, on peut
bêta,
pas.
Ben, paye pour avoir une bêta, Patrick.
Ben, il paye, c'est un des donateurs,
ouais,
dude.
Écoute, je vais y penser dans 2 semaines.
Ce qu'on fera, c'est on va laisser le bouton de don, puis on va faire un bouton genre membre du fan club VIP, tu sais, puis. Vous aurez toutes les nouveautés avant tout le monde, un peu comme les fan clubs du Canadien ou des trucs comme ça.
Exactement.
Ça serait drôle. Genre, vous payez plus, puis on va vous ajouter, nous autres, sur notre compte développeur.
Ah, ça!
Pour iOS, puis pour oui. Mac.
On va faire de l'argent.
Ben voilà, tu sais, il en faut. D'ailleurs, Twitter se demande en ce moment comment en faire de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent l'améliorer, ou en fait, le contraire d'améliorer leur API pour essayer de faire des sous puis monétiser tout ça, parce que je sais pas si vous savez, mais Twitter, ça coûte de l'argent par mois à rouler. Là. C'est comme c'est les fermes de serveurs qui roulent ça, là. C'est assez intense.
Comme je l'ai dit un peu tantôt, l'iPad puis l'iPhone va être 100% compatible. Ça fonctionne très bien. J'ai fait des tests chat et vidéo et tout, ce qui va être sur la plateforme, ainsi que plein d'autres surprises. Donc ça va très bien fonctionner.
On a déjà répondu à la question que je venais de mettre. On va donc aller dans nos questions de documents. On vous rappelle en fait que le podcast Les Amateurs de Mac Bonsoir vise à répondre à vos questions à Apple, qu'elles soient posées en live ou qu'elles soient posées sur les deux plateformes d'entraide que la communauté Mac Québec vous offre sur le site de Mac Québec, soit Mac Québec Entraide et le Forum Mac Québec, ce bon vieux forum qui existe depuis les tout débuts du site Mac Québec, ou peut-être quelques semaines après les débuts du site, là. J'étais pas là. Donc, si vous posez une question sur ces deux plateformes-là, il y a fort à parier que d'abord, les gens qui suivent ces plateformes-là vous répondent. Je sais que Dean, Mario Gaucher et beaucoup d'autres sont très présents sur ces plateformes-là pour vous aider de leur connaissance. Et sinon, ben, nous, on reprend les questions les plus pertinentes et on y répond. Et tout le contraire du show de la semaine passée, on a cette semaine, je trouve, un paquet de questions et des bonnes questions.
Ouais.
Donc, la première, en fait, c'est M. Pierre Lalonde-Chagala qui nous a posé la question sur le Mac Québec Entraide. Ce qu'il nous raconte, c'est « Sans crier gare, ma souris et clavier sans fil se sont déconnectés du Bluetooth. Pas capable de les reconnecter, même s'ils apparaissent dans la fenêtre Bluetooth. Suggestion ou idée? » Donc, c'est dans Mac Québec Entraide, dans la section Bluetooth. Je pense que tu avais quelque chose à suggérer, Jeff?
Non, c'est, ben Vincent, tu as peut-être meilleur. Ben moi, parce que d'après moi, lui, c'est ça vient Bluetooth. Fait que je ne sais pas s'il peut peut-être se trouver un clavier avec fil, parce que s'il fait ça, ça ne fonctionnera
toi,
plus.
En fait, toi, c'est quand ton clavier revient finalement, tu as une solution.
Oui, quand le clavier revient. Sinon, toi, tu as une solution quand le clavier ne fonctionne pas.
OK, vas-y, bon, ben, si vas-y. Jamais ça vous lâche, moi, ça m'arrive de temps en temps parce que je pars avec mon laptop, je reviens, je mets mon laptop en dessous dans le tiroir, je branche mon écran un peu plus grand, puis le clavier ne fonctionne pas. La façon la plus facile de faire, c'est de cliquer sur les deux boutons, hein, parce que ça réactive, ça envoie un signal disant « mon clavier est là, puis ma souris est là, puis elle est prête », puis le Mac qui est en dessous dit « ah, OK, bon, t'es là, avant t'étais pas là, là, t'es là maintenant, je te réactive ». Puis là, tu attends peut-être une dizaine de secondes, puis là, tu vas voir deux icônes, le clavier, puis ensuite la souris ou le pavé tactile qui apparaît à ton écran disant c'est écrit connecté, puis ensuite tu peux l'utiliser. Puis si jamais ça arrive très souvent, puis tu es en train de l'utiliser, tu as un iMac par exemple, là, toi, tu as une solution GF.
Oui, c'est fermer le Bluetooth du système et aller effacer complètement la souris et le clavier dans le quand vous cliquez sur votre icône Bluetooth, vous allez dans Open ouvrir les préférences Bluetooth et vous avez toutes vos appareils connectés en Bluetooth sur votre ordinateur, comme moi j'ai ma Magic Mouse qui est connectée. Fait que effacer la Magic Mouse et le clavier, puis redémarrer le ben, ou peut-être redémarrer l'ordinateur, ça aiderait aussi, ça enlèverait peut-être quelques problèmes avec le Bluetooth. Et redémarrer le Bluetooth et ajouter vous-même les deux périphériques, souris et clavier, parce que si vous faites si vous laissez le Mac activer, à chercher automatiquement les nouveaux périphériques, il va les ajouter lui-même. Ben moi, j'ai toujours préféré les ajouter moi-même que automatiquement par le système. Donc, alors, ça aussi, ça serait une solution à avoir.
Une des choses, moi, que je sais que les gens ne font pas et que ça ne se fait pas à la base dans l'ordinateur, c'est d'ajouter aux périphériques favoris les périphériques. De la manière que ça se fait, en fait, c'est une option qui est un petit peu cachée. Donc, vous cliquez sur l'espèce de logo Bluetooth, qui est un B très, très stylisé, by the way. Là. C'est un B pour Bluetooth. C'est ça le logo. C'est cave, hein? Donc, vous allez dans « Ouvrir les préférences Bluetooth » et vous allez avoir un panneau qui va apparaître. Dans le bas de ce panneau-là, il y a une colonne qui est à gauche et vous avez le sempiternel « plus »,« moins » et petite « gear ». Gear en français, une…
pas une courroie, une…
Gear. Et de toute façon, Richard Gere, il s'appelle Gere en français. Là. Bon,
c'est ouais, sauf que ça s'écrit pas pareil.
Et dans la Gere, on peut avoir une option qui s'appelle Show More Info. À partir du moment où on a coché cette option-là, il y a comme plus d'informations dans la colonne de droite qui apparaissent. Et là, en sélectionnant un des périphériques, on peut l'ajouter à nos favoris. Ce qui fait qu'il va y avoir une espèce de connexion automatique qui va se faire, un espèce de lien qui va se faire entre le périphérique et l'ordinateur. Et l'autre chose, en fait, c'est peut-être regarder au niveau des batteries. Là, moi, j'ai une Mighty Mouse depuis un certain temps. J'oubliais de le fermer. Puis ça n'a pas pris trop de temps. Ça a pris comme moins d'un mois pour que les batteries se vident. Donc, mais je pense que c'est parce que je la laissais ouverte.
Pas obligé de la fermer.
Engrenage, merci beaucoup.
Ouais, moi, je la laisse tout le temps ouverte, ma Magic Mouse. Puis, okay. Ouais, ça dure, ça, là. Hey, c'est des batteries de Dollarama qu'elle a là-dedans. Fait que ça toffe.
Ben, les derniers périphériques ont été optimisés là, pour le clavier. Le dernier qui est sorti d'Apple, ça n'a pas paru. Là, ils n'ont pas fait un lancement, évidemment, pour ça, mais il est passé de 3 batteries à 2 batteries. Donc,
il faudrait qu'il soit rendu qu'il fasse un gros lancement pour un clavier. Là.
Non, je sais, mais je veux dire, les gens ne le savaient peut-être pas, donc c'était intéressant.
On va aller
à
faire
mentionner.
La nuit devant l'Apple Store pour un clavier.
Pour un clavier. Ben, la dernière fois que je suis allé attendre pour un iPad, j'ai un ami qui est venu attendre avec moi, puis le lendemain matin, il est rentré, puis oui. Il fait « Ouais, avez-vous des covers pour l'iPad?
Ah, » oui,
puisqu'il
oui,
l'avait commandé en précommande, tu sais, oui, c'était très drôle.
C'était drôle, il avait passé la nuit avec nous autres, c'était drôle.
Ouais, voilà.
On va sûrement faire la même affaire au mois d'octobre. Bon!
Seconde question qui nous a été posée par M. Serge Barbeau sur Mac Québec Entraide. Il dit « Je veux nettoyer toutes mes données sur mon MacBook Pro avant de le remettre à un membre de ma famille. Quelle est la procédure? » On peut l'aider.
J'avais listé, je ne sais pas si vous avez la page, je ne l'ai pas en ce moment, mais j'ai tout listé le processus. Là, je ne l'ai pas devant moi.
Mais en tout cas, faut premièrement, s'il veut vraiment être sûr que, dépendant de la grosseur de son disque dur, puis s'il y a du temps en panne, il faut formater le disque dur en 35 étapes, c'est long. Là. C'est
35
c'est
étapes,
long,
c'est pour les malades mentales. Mais les malades mentales comme moi...
Ah, oh, ben là, moi, j'ai jamais fait un 35 étapes.
J'ai déjà fait un
35
étapes.
Là,
hey, mais... oh, 35, t'as fait 35 ouais, passes?
Un Gurman,
combien de temps ça a pris?
Comment ça s'appelle? Un Gurman quelque chose. C'est un disque dur de genre 80 gigs. C'était les vieux ordinateurs, puis ça m'a pris plusieurs heures. Mais c'était un vieux disque dur 80 gigs dans une ancienne machine que j'utilisais en Linux dans le temps.
OK.
Mais oui, puis ça a pris plusieurs heures. Donc,
Voilà.
Non, c'est ça.
Donc, est-ce que tu as donné un lien pour ça? J'étais en train de m'occuper d'un petit quelque chose à côté.
Le lien pour aller...
Pour la procédure.
Pour la procédure.
En fait, c'est assez simple. Il faut le CD de redémarrage de
Ou tu prends la partition de secours.
Oui, maintenant avec Mountain Lion. Et puis, on fait un simple... En fait, c'est pour un membre de la famille, là, puis que, si on lui donne un Mac usagé, on s'entend que c'est pas le hacker de l'année. Là, fait que... Simplement, formater le disque dur devrait faire la job.
Exactement, c'est ce que j'ai dit. Vous avez toute la liste est là, je la trouve pas. Je vais le mettre, de toute façon, si vous écoutez le podcast en ce moment, en embed, en AAC.
Dans les notes.
Vous pourrez cliquer dessus pour l'avoir. Mais c'est ça, vous prenez en gros, vous prenez votre CD, vous le mettez dedans, vous allez dans l'utilitaire en haut, vous choisissez votre disque dur, vous effacez. Normalement, si vous faites juste un effacer normal comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous l'effacez en 35, je ne sais pas s'il donne cette option-là. Par contre, puis moi, j'avais donné l'exemple que j'avais passé ça sur Linux parce que j'utilisais un CD sur le boot. Fait que je ne connais pas la façon de faire pour effacer en 35, mais je ne vous conseille pas. Puis de toute façon, si quelqu'un, si c'est juste votre famille, là, c'est pas grave. Là, vous faites juste effacer votre disque dur, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas...
traditionnel.
Ce sera pas plus lent parce que vous faites de cette façon-là. En fait, il fait juste réécrire dessus. Donc, si vous faites juste l'effacer, il réécrit-tu juste dessus ou il fait juste comme dire non, il n'y a plus rien sur le disque dur?
Okay. Il n'y a plus rien. Il fait juste dire qu'il n'y a plus rien.
Vous réécrivez pas dessus. Le 35 fois, vous réécrivez 35 fois, là, les 0 et des 1. Là. Mais c'est ça. Donc, il fait juste l'effacer et ça devrait être correct.
Ouais. Fait que la prochaine question, Alexis, c'est Christian Renaud.
Ouais, Christian Renaud qui nous a demandé comment on fait pour enlever ce...
Le tabarnak!
De Node 32 sur... ceux qui bloquent son Mac 10.6, en fait. Puis on a fait un effet sonore avec JF, qui, parce que c'est vraiment écrit comme ça dans le texte. Je suis en train de fouiller un petit peu sur Internet, en fait, et sur les forums de Apple, on dit vraiment que Note 32, qui est antivirus pour Mac, c'est vraiment de la merde.
Note 32, donc, en général, depuis un certain temps, ça
ah oui? pas super bien. C'est vrai? OK. Pour rester poli.
Faut leur dire encore une fois, on n'a pas vraiment besoin d'antivirus, là. Surtout avec Mountain Lion qui s'en vient, là, avec le Gatekeeper, là, on n'aura plus vraiment besoin d'antivirus.
C'est-à-dire si tu restes à l'intérieur du Gatekeeper, mais si tu oui, sors...
Si tu sors du Gatekeeper, tu vas en avoir, tu peux en avoir, mais c'est rare, là, on s'entend, là, tu sais, Dean, toi, on va en avoir, tu viens, toi, ouais, c'est ça. Mais bon,
on va
pas sur les mêmes sites, moi, puis toi, là. On va pas sur les mêmes sites, mais bon. Mais, tu sais, avec Mountain Lion, avec le Gatekeeper, et en plus, la portion logicielle qu'on a eue comme mise à jour il y a 2-3 semaines avant le GM, qui donne une couche supplémentaire au système de sécurité, Apple ont choisi vraiment, avec cette version-là de Mountain Lion, de vraiment aller chercher profondément la sécurité pour pas avoir à faire peur aux utilisateurs. Là,
il y a quand même beaucoup d'experts en sécurité qui disent que OS X est quand même en arrière au niveau des systèmes qui sont mis en place pour la sécurité. Le système n'a pas eu à se défendre jusqu'à maintenant parce qu'il n'était pas soumis à des attaques incessantes comme les Windows. Mais c'est sûr que Windows a des années et des années de couches de protection qui sont mises. Il y a des protections qui sont très, très vieilles, qui devraient peut-être même plus être là, et des trucs qui sont plus récents. Ce que je pense qu'Apple commence à faire, ce sont des systèmes qui... vont quand même relativement protéger l'ordinateur en le gardant, peut-être que ça va énerver certaines personnes, mais en le gardant dans une espèce de wall garden, donc de jardin protégé. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un outil qui va scanner peut-être pour des virus du côté de pièces jointes dans des emails, des trucs que vous auriez pu recevoir, par des gens sur PC. Jean-François le dit, ClamXav. Ça se prononce très mal, mais ça s'écrit très bien dans un App Store. C'est gratuit, si je ne me trompe pas. ClamXav. C'est un antivirus, si je ne me trompe pas, qui est gratuit, mais aussi open source.
Et open source et intelligent aussi.
Voilà. Donc, ça vaut vraiment la peine à aller chercher. C'est pas envahissant. Écoute, la pire affaire que j'ai vue dans ma vie,
c'est Norton.
Non, c'est Sophos ou Integro. Integro.
Ah oui, je sais c'est lequel.
Virus Barrier de Integro. Là. Écoute, quand il scanne quelque chose, quand il trouve de quoi, il te fait une espèce de bruit de sonnette incroyable. J'ai vu du monde crever dont le pacemaker avait explosé à cause de ce bruit-là, tellement ça fait peur puis ça te surprend, là, puis ça arrive à n'importe quelle espèce de moment. Fait que c'était pire que tout, mais ClamXav, ça va donner une protection qui va être quand même correcte.
Ouais.
Puis on se souvient en fait qu'Apple, il y a quelques semaines, a enlevé la mention qu'il n'y avait pas de virus sur Mac et tout ça, de son espèce de fiche de pourquoi transférer à Apple. Fait qu'il commence à être un petit peu plus humble de ce côté-là.
Ben, c'est sûr que dire qu'il n'y a pas de virus, qu'il y a des virus, c'est un non-sens. C'est sûr qu'un jour, il fallait qu'il l'enlève.
C'est ça.
Ouais, c'est sûr. Là.
Ouais.
Est-ce qu'on en fait une petite dernière avant le show ou on en fait deux, trois?
Ah, ouais, on pousse encore.
On peut en faire une dernière.
C'est Vincent, c'est.
Ah, OK.
Une dernière, bon, ouais,
c'est Vincent qui fait le montage.
OK, bon, on va choisir la dernière en bas, Alexis.
Ça, on a déjà répondu.
En bas du document.
Je vous remercie à l'avance.
Regarde, on se donne jusqu'à 11h15. Fait que si on peut en faire une coupe.
Okay. OK, c'est bon.
Ben, je vais répondre rapidement en fait à Zizette et voilà. Sur le forum de Mac Québec, j'ai un vieux PowerPC G5 2.2 GHz que je veux vendre, mais je ne sais pas combien ça vaut. Version Mac OS X 10.5.8, dual 1.8, donc il n'est pas à 2.2 s'il est à 1.8. 1.25 GB DDR SDRAM et à 900 MHz. Ça m'étonnerait que ce soit 900 MHz. Je pense que c'est plus de l'ordre de 300, cette DDR-là. Bref, en fait, ça ne vaut pas nécessairement, c'est ce qu'on lui a répondu dans le chat, ça ne vaut pas nécessairement très cher comme appareil, mais un des bons endroits pour le vendre serait probablement les Mac.com, dont on a parlé tout à l'heure dans le podcast Mac Québec. Abondamment. Et c'est ça, en fait, il y a Mac to Sell aussi qui vous permettrait peut-être d'établir un espèce de prix barème. Ils ont des outils intégrés pour, vous dites qu'est-ce que vous avez comme processeur, qu'est-ce que vous avez comme mémoire, qu'est-ce que vous avez comme appareil, et eux vont vous donner un prix. Mais une tour comme ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire encore avec aujourd'hui. Les ordinateurs sont autrement plus puissants que ça. Même un Mac mini mange tout rond, ce Power Mac G5-là. Ça vaut peut-être, je ne sais pas, là, peut-être un 100, 150 $, 200 à la grosse limite si quelqu'un voulait tester des choses dessus ou essayer de s'amuser un peu, mais ça ne vaut pas vraiment plus cher que ça.
C'est quoi qui tourne sur ça?
10.5.8.
Ouais.
Voilà.
Yo, pa.
Une question. Laquelle? Où ça?
Si je voulais vendre, je vais la publier. Si je voulais vendre un iPad première génération, 64 GB Wi-Fi et 3G, sur les Mac.com, combien est-ce que ça pourrait donner sur le marché en ce moment?
En fait, on va commencer. Wi-Fi plus 3G. Il n'y a pas la caméra. Moi, j'irais pour un prix autour. Écoute, un bon prix d'ami serait probablement autour de 400 $. Sinon, tu peux essayer autour de 450-500. C'est quand même un appareil qui en valait 800 à son achat, même un peu plus que ça. Par rapport à un iPad d'aujourd'hui, qui va coûter autour de 900 $ là, pour un 64 GB. Moi, bizarrement, là, j'utilise beaucoup plus l'espace qu'il y a à l'intérieur du iPad que la connexion 3G. C'est sûr que c'est cool, là, mais c'est bizarrement un appareil qui reste plus souvent à la maison. Donc, j'aurais plus tendance à recommander d'aller vers plus de gigs que vraiment la connexion 3G, mais dans ce cas-ci, il y a les deux. Donc, je pense qu'à 400-450, ça serait raisonnable.
Bientôt, parce que si jamais OS 6 sort, tu ne peux juste pas l'utiliser OS 6 déjà. Donc, c'est sûr que c'est un peu plate de ne pas l'utiliser non plus. Fait que c'est un peu comme le monde qui vend, je pense que c'est Pete Charme ou quelqu'un d'autre, qui avait vendu son Mac ou son iPad avant finalement l'iPad 3. Puis, il a pu le vendre à un bon prix avant qu'il sorte. Quand l'iPad 3 est sorti, évidemment, ça a descendu. Parce qu'il offrait l'iPad 2 un prix équivalent. Là, fait que vends-le bientôt parce que sinon ça se peut que ça descende.
Voilà. Sinon, il y a M. Paul Héroux qui nous a demandé sur le forum Mac Québec, y a-t-il encore Street View avec iOS 6? Non, effectivement, l'application Plan, et on en a parlé un petit peu plus tôt, n'offre plus le Street View. Par contre, il y a une news qui est sortie cette semaine, Navigon, qui est, en tout cas, à mon sens, une des très bonnes applications de GPS. Eux ont signé avec Google pour intégrer Street View dans leur application qui fonctionne sur iOS. Donc, c'est un bon coup aller reprendre cette fonctionnalité-là. Déjà, elle est très belle, Navigon, mais Street View, c'est quand même une très bonne idée, un beau petit ajout pour cette application-là qui est, moi à l'époque, je l'avais acheté, elle m'avait coûté quand même un certain prix, mais maintenant, je pense qu'elle est une trentaine ou une quarantaine de dollars.
C'est 39,99.
Quand même.
Vincent...
En fait, juste faire rapidement une parenthèse sur ça. Il y a un fail, puis il y a un coup d'os, puis un coup d'os là-dessus. Le coup d'os, c'est justement le Google Street View. Par contre, le coup de dose, ils ont décidé, un peu comme certains autres navigateurs, qui je trouve un non-sens, là. Surtout comme pilote, je trouve que ça sert absolument rien d'utiliser des noms comme ça, mais d'ajouter une fonction à, je pense que c'est 1,99 ou 4,99 dans l'application, C'est comme c'est une option compas, c'est une option cockpit.
C'est cockpit à 4 piastres.
Des espèces d'applications calibrate, là, de calibration, si ça dit. De savoir à quelle altitude vous êtes. Puis ces applications-là, ça fonctionne une fois sur deux, puis ça donne jamais la vraie affaire, personnellement, là, pour avoir essayé plusieurs choses. Il y a de l'équipement qui existe d'habitude pour ça. Fait que on s'entend, une application avec un accessoire comme ça, c'est juste une feature de plus. Mais c'est, si vous achetez ça, c'est parce que c'est juste pour le fun. Parce que si vous pensez que ça va vous aider, ça ne fonctionnera pas. Ça vous donnera pas la vraie information.
Déjà que dans une automobile, la fonctionnalité de la boussole pour que ta map suive la direction dans laquelle va le téléphone, dans une automobile, habituellement, elle va jamais bien parce que ton char est fait en métal, fait qu'il influe sur ça. Il faudrait que tu aies un décapotable ou un auto
parce
en plastique.
Que même prendre ton téléphone et utiliser l'application Compas du iPhone, tu es obligé de la tenir très loin, premièrement, de ne pas mettre de montre parce que ça dérange, comme une boussole un peu. Puis encore là, c'est ouais, pas véritablement parce qu'il y a du métal dans l'application, dans l'iPhone, ça dérange quand même. Fait que c'est pas une application pour le fun. C'est pas. Prenez pas ça au lieu de vous acheter une boussole, là, quand même.
Ouais, d'ailleurs, ils ont perdu la 128e meute de Louveteau à cause des broches du plus jeune. Fait que...
bon, okay.
C'est une blague.
Bon, ouais, je savais, là.
Bip, un gros mot.
C'est drôle. C'est drôle, une joke de broche. Là.
En parlant
il était
de GPS,
roux en plus.
Oui, oui. En parlant de GPS, on va faire une petite anecdote à ça. Aujourd'hui, TomTom ont annoncé sur Twitter, j'ai vu ça passer, que Montréal se situait au 12e rang, la ville qui a le plus de trafic en Nord-Amérique.
En Amérique du Nord.
En Amérique du Nord, oui. Excusez, il est tard. Là,
faudrait savoir, en fait, Montréal, avec le bassin de population, se retrouve au combienième rang, tu sais?
La troisième ville canadienne, là, c'est Vancouver.
OK.
Qui a le plus de trafic en Amérique du Nord.
Ils sont à peu près 25 fois plus que nous, non?
Ils sont... sont combien à Vancouver, je ne sais plus trop. Mais quand même, c'est parce que il y en a beaucoup qui ont, tu sais, qui chantent, oh, les petits comptes jaunes, il y en a beaucoup à Montréal. Quand j'ai vu ça passer, je suis bon, enfin. Ouais, mais ils ont pris les plus grosses villes, on s'entend, là. Tu sais, c'est quand même mieux que Vancouver.
Vancouver, ils ont 700 000 habitants.
C'est parce que les autres. 700 000 habitants, puis sont troisième. Mais imagine-toi, on est 3 500 000 ici à Montréal, à peu près.
Mais ça veut dire fait qu'on fait plus la job.
Mais c'est pour ça qu'on est à 2 sur 3. Mais par contre, tu sais, c'est comme... Montréal, c'est une île. Hein? Ouais. Ben, vous le savez, mais c'est une île. Donc, tu peux pas agrandir pour essayer d'élargir les choses. Tout va rester à même endroit. L'île va pas grandir. Puis faut que ça soit sur le haut. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de monde pour être à Montréal. Le trafic ne va pas s'améliorer du jour au lendemain. Il faut compter sur des personnes qui vont prendre moins l'auto, qui vont prendre les services en commun.
Non, mais il y en a des solutions là, qui sont proposées depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a des trains suspendus, il y a des tramways qui peuvent être mis en place. Il y a Pascal Forget parlait dans un de ses articles il y a quelques semaines d'un appareil qui, installé à une automobile, t'empêche d'être trop proche de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un appareil que tu mets sur ton automobile puis ça gère une fois que tu es dans le trafic. Ça prend un petit peu ta place pour conduire puis ça fait que tu ne peux pas aller te coller dans le cul de quelqu'un d'autre. Et la compagnie expliquait que si dans une ville donnée, si 25 % des automobiles installaient ce système-là, si 25 % des automobiles installaient ce système-là, le trafic descendrait de 37 % parce que ce qui cause du trafic, c'est peut-être, oui, bon, les chantiers, les ci, les ça, c'est sûr, sauf que les changements de ligne, le monde qui se tasse, puis quand tu arrives pour ne pas te faire dépasser puis que tu breaks, ben ton freinage rapide, il se répercute en arrière comme une onde de choc. Et ça donne quelque chose sur plusieurs kilomètres et ça donne quelque chose de vraiment important. S'il était capable de nous faire embarquer plus qu'un dans une automobile ou nous permettre d'acheter des automobiles pas aussi larges que ce qu'on a, je sais qu'il faudrait changer un paquet de législations, là, mais si vous allez chercher sur Internet, c'est commuterscar.com.
Mais ça, c'est des solutions temporaires. Si tu as une auto plus petite ou moins large, c'est parce que tu peux mettre fitter plus d'auto au même endroit, mais au final, quand vous allez être plus sur l'île, vous allez avoir le même problème. C'est comme tu parlais, ce qui est la solution des transports en commun. Les trains à Montréal, ça fonctionne bien, là, contrairement à d'autres endroits. Les trains, c'est le fun.
C'est-à-dire que, oui, mais une fois arrivé à Montréal, écoute, la STCU, le métro à Montréal, c'est ridicule. Là. On les suit sur Twitter. Là, ils sont à je ne sais pas combien de 1000 tweets de dire que la ligne jaune, puis la ligne verte, puis la ligne je ne sais pas quoi ne fonctionne pas. C'est pas efficace. Là, d'un côté, ils essayent de nous pousser avec des beaux graphiques puis des grosses campagnes publicitaires à utiliser leur truc. Et d'un autre, ils ont un système qui est vieux, qu'ils n'ont pas entretenu. Puis ils disent, d'ici 15 ans, on va avoir changé tous les wagons. Ben oui, as-tu un plan pour dans 15 ans changer ceux que tu changes aujourd'hui? Parce que ça tourne.
On s'éloigne un petit peu là, de notre sujet de balado-diffusion.
Voilà.
Michel Mongrain sur le forum de Mac Québec, je vais y répondre. Oui. Je suis abonné à iTunes Match et dans la configuration de mon iPod, j'ai choisi de ne pas installer la musique afin de garder l'espace disponible sur le lecteur de mes livres audio. Lorsque je désire écouter de la musique, je choisis à l'écouter en me servant de iTunes Match et donc du contenu qui se trouve dans le cloud. Mon problème est qu'il semble que lorsque mon iPod joue un morceau, il l'installe sur mon iPod plutôt que le laisser dans le cloud. Ainsi, il arrive comme maintenant que je reçois des messages m'indiquant qu'il n'y a plus de place dans son iPod. Sa question. Ma question est de savoir s'il existe une commande que je ne connaisserais pas pour faire face pas qu'il fasse en sorte d'empêcher ma musique de s'installer sur mon iPod. Sinon, je ne vois pas l'utilisation de iCloud et de iTunes Match. Auriez-vous une piste de solution pour moi? Moi, j'attendrai au mois d'octobre avec iOS 6.
Voilà. iOS 6 va permettre le streaming, en fait, ce qu'on attendait depuis quand même un certain temps. Ça va consommer beaucoup de bandes passantes. Cette semaine, là, j'avais activé l'option données cellulaires dans le store et je chauffais ma musique. Mais tu sais, il passe à l'autre musique, oups, je ne l'ai pas, il y a télécharge. Je passe à l'autre musique, oups, je ne l'ai pas, il y a télécharge. Donc, je ne suis pas sûr que je n'aurais pas busté mon data ce mois-ci, mais.
Je m'excuse, mais.
Faut en télécharger pas mal, là, c'est sûr.
Faut que tu en écoutes de la musique.
Ben, écoute, moi, j'ai failli booster mon service il n'y a pas longtemps à cause de trop de streaming audio. Là.
C'est vrai.
Il me reste pas longtemps, fait que j'arrête, là, mais j'écoute l'analyse des geeks avec l'application que j'ai faite, et j'allais booster mon affaire parce que je pense que j'avais déjà dit à l'autre podcast, je trouve l'application podcast qui ont sorti n'est pas 100% fonctionnelle. Puis j'utilise mon application en place. Puis c'est ça, je stream, mais j'étais à 5 gigs et quelques, là, faut que je fais attention.
Ah. Mais c'est vrai que ce que Patrick Duchamp dit, 6 gigs, ça sera plus assez, exactement. Parce que, on regarde, avec le LTE, si tu pars là-dessus, là, avec ton LTE, ça prend de la bande, là.
Effectivement. Les options, d'ailleurs, LTE donnent un petit peu plus de bande passante là, à la sortie du nouveau iPad. Si tu prenais un service, il doublait la bande passante qu'il offrait d'habitude. Donc, ça passait de 5 à 10 gigs. C'était un truc qu'il y avait dans ce temps-là. D'ailleurs, TELUS vient de ressortir, si j'ai bien vu, aujourd'hui ou hier, la fameuse promotion 30$ pour 6 gigs. Donc, probablement en prévision de nouveaux téléphones sur le marché ou simplement parce qu'ils peuvent le faire. Mais elle avait disparu, en fait, du moins chez Rogers. Là, on me disait, on n'a plus cette promotion-là, on ne peut plus le faire. Donc, si ça revient chez TELUS, les autres vont être un petit peu obligés de suivre. Mais si vous attendiez cette promotion-là pour pouvoir aller vous chercher un un iPhone, ça peut être intéressant.
T'avais pas un truc, toi? Bon. T'avais pas genre un service malade? Ben, il me semble que t'avais pas genre plus que 6 gigs. T'avais.
Ben, c'était 10 sur l'iPad, mais sur le téléphone, ça reste 6.
Fait qu'on va passer à la dernière question et comme on va poser la question. Comment faire jouer des divers types de fichiers MKV, AVI sur un Apple TV 3? Alexis?
Ben en fait, le Apple TV 3 se jailbreak pas encore, mais quand on va pouvoir le jailbreaker, on va faire une émission spéciale là-dessus et on va pouvoir répondre à votre question. Sinon, en attendant, ben, sur lesmac.com, vous avez probablement des anciens Apple TV deuxième génération que vous allez pouvoir jailbreaker.
Mais voilà. Non, c'est ça. Mais j'ai hâte qu'on fasse cette émission-là.
Oui, oui, mais on est en train de ramasser l'information. Ça va se faire à un moment donné.
Ah oui, c'est ça.
Sinon,
ça va,
monsieur...
Ça va se mettre dans la filière 13, ça va tomber droit dedans.
Voilà. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur... C'est déjà tout pour cette semaine, en fait. On a quand même fait un bon 2h15 de... Non, 2 heures de podcast.
Ouais.
Assez, là, du gratis. Payez dans les dons, si vous voulez, plus de
ouais, on attend le chèque de Maxime Tremblay et de Benoît Mercier, là.
Oui, voilà.
De rentrer un petit peu.
Sinon, messieurs, ouais. Où on peut vous retrouver sur les internets?
Bon,
Jean-François?
Vincent, vas-y.
Vas-y.
Ah, oh, merci, t'es donc bien fin. Bon, mais on peut me rejoindre sur Twitter à JFroy1979, sur Facebook aussi au même nom, sur Instagram au même nom. Moi, j'ai choisi tout le même nom. Je me casse pas la tête. C'est le même nom d'utilisateur sur tous les médias sociaux.
C'est le même mot de passe. Fait que vous verrez dans le chat le mot de passe qui est.
Non, mais mes mots de passe sont gérés par 1Password, moi. Fait que... Toi, Vincent, on peut t'en joindre où?
Je vais sur les Twitter, une partie des internets à DEV Vmiller. Moi aussi, j'utilise mon nom. Fait que si vous tapez Google DEV Vmiller, vous allez pouvoir me voir sur
mon service.
Quoi?
Et son mot de passe, c'est le 1.
C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis dit,
on va
mettre une sécurité de plus avec un chiffre de plus.
Ouais, ouais.
Puis, ou sur mon site web vmiller.ca qui fait partie aussi des internets. Un des serveurs à Frank the Tank de la Navy.
Ah, excellent. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez me retrouver sur mon fabuleux site fait par Vincent, en fait, au alexiscornelier.com. Et de ce temps-ci, vous pouvez aussi me retrouver dans l'application SongPop, où est-ce que vous pouvez me rajouter avec mon adresse email à côté de moi dans Twitter. Là, je vous donnerai ça. Et puis, on se lancera des challenges de SongPop, qui est un jeu assez addictif. C'est pour écouter des chansons des années 80-90, du rap, du en tout cas n'importe quoi. Et faut le plus rapidement possible que tu trouves c'est qui l'interprète, puis que tu pèses dessus, puis là, ben t'envoies. C'est un peu comme Draw Something, mais avec des chansons. Fait que c'est assez cool. Et vous pouvez aussi me rajouter, j'ai succombé et je joue à un jeu Facebook. Depuis quelques temps, c'est Marvel Alliance, puis j'envoie comme des invitations à tout le monde, je m'en fous, j'ai comme plein de monde qui a arrêté de me suivre, vous pouvez me rajouter là-dessus. J'ai d'ailleurs iOliver, je crois, qui m'a rajouté, c'est Animate Trunk, pas iOliver, je pense que c'est Animate Trunk qui m'a rajouté. Qui m'a rajouté, qui est vraiment plus haut niveau que moi. Fait qu'à chaque fois que je l'utilise pour m'aider, il pète tout le monde. C'est vraiment cool. Allez-y, rajoutez-moi dans cette application-là. Et puis, sinon, d'ici là, on vous dit salut et on se retrouve dans 2 semaines.
Et on vous invite vendredi prochain à 20h au Geek Party.
Oui, tout à fait, au Brouhaha 58, 60 de l'Orny. Oui,
la nouvelle plateforme dans 2 semaines, jeudi 21h comme d'habitude, mais avec une nouvelle plateforme probablement, là, si tout fonctionne bien.
Si tu dors pas d'ici là.
Si je dors pas. Si en fait, je suis capable d'avoir, je suis en train d'en processer avec le gouvernement du Canada pour essayer d'avoir 26 heures au lieu de 24, comme tout le monde. Donc, si je suis capable d'avoir ça, je devrais être correct.
Excellent, 26 heures par jour, c'est ce qu'il nous faut. Mais tu peux peut-être essayer d'y faire croire que Dieu parlait de 26 heures au lieu de 24. Oh. Ouais, ça devrait marcher.
Ouais,
ça.
Bon. Si on convertit en binaire, puis si je finis, ouais, ouais.
Ça va finir par 42. Bon.
42. Exactement. C'est une excellente fin de podcast. 42. Au revoir.
Bye, bonne soirée.